Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Un récent sondage indiquait que pour près de 75% des Français, elle reste le principal symbole de notre pays. La Tour Eiffel, après plus de 120 ans d'existence et 225 millions de visiteurs, oui, ne se démode pas. On parle en ce moment de réaménager son premier étage, de la végétaliser, même d'y installer des éoliennes. Franck Ferrand nous parle aujourd'hui de la plus célèbre des Parisiennes.
Après bonjour, vous, Franck. Julia, bien entendu.
Oh, c'est gentil.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Nous allons en effet nous intéresser de plus près au plus célèbre monument de Paris, mais à travers lui, c'est à un grand homme méconnu que j'aimerais consacrer cette émission. On connaît bien sûr Gustave Eiffel. Certains ont entendu parler de Noguière et Koechlin, les deux ingénieurs qui ont dessiné la tour. Mais personne ne parle jamais de l'homme qui l'a rendu possible, Édouard Locroy. Eh bien, nous allons aujourd'hui essayer de réparer cette erreur.
Édouard Locroy, l'oublié de la tour Eiffel, c'est d'ailleurs le titre de l'ouvrage de Pascal Lainé que vous avez invité cet après-midi sur Europe 1.
Oui, Pascal Lainé qui avait eu le prix Goncourt avec la Dentelière et qui connaît fort bien l'histoire de la Tour Eiffel. Il vient donc de réparer une injustice en consacrant cette biographie à Édouard Locroy, personnage incroyable. Vous allez voir qu'il n'y a pas que la Tour Eiffel dans cette villa.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Elle est la star du patrimoine français avec 6 millions de visiteurs tous les ans. Elle qui au départ devait seulement marquer le centenaire de la Révolution et symboliser le progrès industriel, elle est devenue tout simplement le symbole de la France en général et de Paris en particulier. La Tour Eiffel porte le nom du génial Gustave et l'on pense pour cela qu'elle a été imaginée, conçue, dessinée par Gustave Eiffel. En réalité, Gustave Eiffel a construit la tour mais il ne l'a pas inventée. Commençons peut-être, si vous voulez bien, par nous replonger dans l'époque. Tout commence en 1884 sous la présidence de Jules Grévy. Le président du conseil est alors Jules Ferry, le père de l'histoire de l'école républicaine, et à travers lui, ce sont les républicains qui triomphent en France. En 84, le comte de Chambord, c'est-à-dire le prétendant légitimiste au trône, vient de mourir. C'est l'époque de la loi sur les communes, sur la modification du Sénat également, la loi sur la liberté syndicale, sur le rétablissement du divorce. La France est en train d'étendre son empire colonial, notamment en Indochine. Elle prétend entraîner de nombreux peuples sur la voie d'une émancipation démocratique. Victor Hugo est à la toute fin de sa vie. Il va mourir l'année suivante, en 85. Vous savez qu'on lui fera des funérailles nationales grandioses. Ô République universelle, tu n'es encore que l'étincelle. Demain, tu seras le soleil, écrit-il dans Les Châtiments. Au premier rang des idéaux républicains de l'époque, il y a évidemment le progrès technique, et notamment, en plus du chemin de fer, de l'industrie lourde, du commerce international, et allant de pair avec eux, vous trouvez cette nouvelle forme d'architecture qui s'appuie sur l'essor de la métallurgie, l'architecture métallique. L'un des grands spécialistes français de ce nouveau savoir-faire, c'est évidemment un ingénieur de centrale encore assez jeune, il a la cinquantaine, et qui a installé ses ateliers à Levallois-Perret depuis une vingtaine d'années. C'est évidemment Gustave Eiffel. Or, en ce milieu des années 1880, les ingénieurs de la société Eiffel rivalisent d'imagination en vue d'un grand événement qui mobiliserait leurs talents. Il est beaucoup question de la préparation du centenaire de la Révolution française, de l'exposition universelle qui doit marquer cet anniversaire. Alors, on a l'intention de construire à Paris une tour, une sorte de phare de 300 mètres de haut. Pourquoi 300 mètres? Eh bien parce que dans le monde anglo-saxon, ça fait 1000 pieds et que l'idée de construire une tour gigantesque de 1000 pieds de haut est dans l'air depuis pas mal de temps à travers le monde entier. Deux ingénieurs du bureau Eiffel, Émile Nouguier et Maurice Koechlin, se sont mis au travail. Ils imaginent une sorte d'immense structure de fer aux formes épurées, comme une pyramide d'armature métallique extrêmement effilée, plus haute que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Seulement voilà, quand ils présentent leur projet au patron, à Gustave Eiffel, eh bien on peut pas dire qu'Eiffel soit emballé. Certes, il va les autoriser à poursuivre leur étude, à ses frais donc, mais en leur expliquant qu'ils ne devront pas compter sur son implication dans le projet. Si j'ose dire au premier abord, Eiffel est passé à côté de la tour qui un jour portera son nom. Seulement, les deux ingénieurs ne se découragent pas. Ils décident de pousser plus loin leur projet en demandant à un architecte, Sauvestre, d'habiller la structure, de la décorer en quelque sorte, de lui donner, pour parler clairement, les fioritures néo-byzantines susceptibles de la mettre à la mode. Et voilà que, redessiné de la sorte, le projet se met à plaire à Gustave Eiffel, et d'autant plus que Jules Grévy vient de signer les décrets initiant l'exposition universelle de 1889. C'est à ce moment précis que Gustave Eiffel, peut-être sous l'empire de la nécessité, décide de s'associer sur le projet à ses deux inventeurs. Il va leur acheter littéralement leurs dessins. Il va travailler désormais avec et pour Nouguier et Koechlin. Eiffel n'est pas un perdreau de l'année. Hein. Il est bien conscient qu'un tel projet aussi ambitieux ne va pas se faire tout seul. Il va falloir se battre pour l'imposer. Mais cela, ce genre de combat, on peut dire que c'est son domaine. Le grand Gustave possède ce talent de convaincre, de fédérer, de mettre en œuvre les ardeurs. Et il s'y emploie avec toute l'énergie dont on le sait capable. Il faut savoir que lorsqu'il croit à quelque chose, Eiffel, il peut déplacer les montagnes. Toute sa vie illustre ce trait de caractère. Il a raté Polytechnique, il n'a pas brillé à Centrale, mais il a su très jeune, en développant les bons contacts au bon moment, il a su faire carrière dans l'aménagement ferroviaire, puis dans l'architecture métallique. Il a su créer sa propre entreprise et la faire fructifier en France, mais aussi et surtout à l'étranger. Et parallèlement, il confiait à sa mère le soin de lui trouver une épouse efficace à laquelle il allait faire 5 beaux enfants. Il y a un plan de carrière dans la tête de ce diable d'Eiffel, comme il y a un emploi du temps, une grille de commande, un échéancier commercial, un programme de chantier. Cet homme-là est l'enfant du rationalisme, un enfant très ambitieux et qui ne doute de rien. Ce qui me frappe quand j'observe l'activité de Gustave Eiffel à cette époque, c'est l'énergie pharaonique qu'il est capable de déployer. Et cette énergie, dans le projet de la tour de 1000 pieds, on peut dire qu'elle va faire des merveilles. Or, dans son entreprise de propagande tous azimuts, Gustave Eiffel joue sur deux tableaux à la fois. Le symbole, il s'agit de faire un symbole de progrès, c'est, on marque le 100e anniversaire de la Révolution, mais aussi l'instrument. Eiffel a pour intention d'installer là-haut une station d'altitude pour la météo, pour l'observation, l'expérimentation. On ne parle pas encore des ondes radio. Ça viendra plus tard, comme si la tour Eiffel avait trouvé son utilité concrète seulement après avoir été réalisée. L'ingénieur et homme d'affaires a toujours un œil sur la concurrence, car s'il a retenu une chose de l'expérience qu'il a acquise à la tête de son entreprise, c'est qu'il ne vous suffit pas de présenter un bon projet, encore faut-il que les concurrents ne vous savonnent pas la planche. C'est ici qu'intervient ce personnage essentiel et qui, à sa façon, va faire autant pour le succès du projet de Gustave Eiffel que l'ingénieur lui-même. Cet homme s'appelle Édouard Locroy. Locroy est ministre du Commerce et surtout il est commissaire général de l'exposition universelle. C'est un homme habile, grand commis de l'État et qui préfère nettement Eiffel à ses concurrents. Alors, il va lui confectionner un cahier des charges à ses mesures. Les candidats vont devoir, je cite, « édifier une tour de fer à base carrée de 125 mètres de côté ». On aurait voulu dresser un portrait robot du projet d'Eiffel, on n'aurait pas fait mieux. La loi destinée à régler l'organisation de l'exposition et fixant les modalités de son financement fut promulgué le 6 juillet 1886, écrit Pascal Lainé. Locroy, répétons-le, était le responsable, pour ainsi dire, unique de toute l'entreprise. La Chambre le soupçonna, non sans raison sans doute, de dissimuler quelques-unes de ses intentions, notamment en ce qui concerne sa tour Eiffel. Le fait est que de son propre chef, Locroy venait d'insérer discrètement dans son budget, au chapitre des imprévus, une somme de 3 millions dont la moitié devait d'ores et déjà servir dans son esprit à subventionner une partie des 7 millions qu'allait coûter, au bas mot, la tour Eiffel. Pascal Lainé cite toutes les commissions, les services divers chargés de gérer la préparation du grand événement. S'il en était besoin, précise-t-il, ce luxe d'organismes de toutes sortes chargés de la gestion et du contrôle technique ou financier des préparatifs de l'exposition montrerait à quelle importante nécessité nous obéissons en nous efforçant de faire un peu mieux connaître la personnalité d'Édouard Locroy, qui pilote l'énorme entreprise, pour ainsi dire seul et de main de maître. Il est véritablement la cheville ouvrière de l'opération, cet Édouard Locroy dont nous allons reparler tout à l'heure. Reste à régler la question tout à fait cruciale au demeurant de l'implantation de cette tour géante. Mais où est-ce qu'on va bien pouvoir la placer, cette tour Eiffel ?
Voyez, mademoiselle, c'est le plomb de ma tour Eiffel. Elle aura 300 mètres, où comptez-vous la mettre? Côté du pont de Javel, à Montmartre, bien à Grenelle, la petite a dit merci beaucoup, vous êtes gentil, mettez-la n'importe où.
Un extrait sur Europe 1 de la tour de Monsieur Eiffel, interprété par Léo Marjane.
Léo Marjane, mettez-la n'importe où. En fait, on pensait peut-être l'installer dans un premier temps au Mont Valérien, parce qu'on l'aurait bien vu là-bas, où on voulait aussi lui faire enjamber la Seine. Finalement, c'est la vaste esplanade du Champ de Mars qui s'impose. Allez, va pour le Champ de Mars. Maintenant, Gustave Eiffel va pouvoir se mettre à l'ouvrage. Il a défendu son projet. Il a été suivi. Vous avez vu à quel point il a même été épaulé par Édouard Lecroix. Toutes les exigences sont sur le papier. Les plans de la tour le sont aussi. Il est grand temps de trouver ce qui demeure essentiel à une telle entreprise, ce sont les fonds nécessaires. Alors l'État, vous avez vu, va jouer un rôle important. Il subventionne à hauteur d'1,5 million. Le devis étant estimé à 6,5 millions, il faut encore trouver 5 millions. C'est énorme, hein, 5 millions de l'époque. On va pour ça fonder une société anonyme dont Eiffel rafle la moitié du capital. Je vous ai dit, c'est un ingénieur et un organisateur, Eiffel, mais c'est aussi, on a presque envie de dire, c'est avant tout un homme d'affaires.
Cœur de l'histoire.
Franck qui nous raconte aujourd'hui sur Europe 1 l'histoire de l'oublié de la Tour Eiffel à un personnage passionnant, Édouard Lecroix.
Édouard Lecroix qui va jouer un rôle très important. Il est vraiment la cheville ouvrière de ce chantier de la Tour Eiffel. Il est le représentant de l'État, tout simplement, en tant que commissaire général de l'exposition universelle. Alors, le 8 janvier 1887, la convention est signée. Le plan définitif a été beaucoup allégé par rapport au dessin de Sauvestre. Finalement, on en revient à un schéma beaucoup plus épuré qui correspond à peu de choses près à ce qu'on voit aujourd'hui. Sur place, le chantier va pouvoir s'organiser et voilà que février 1887, c'est le premier gros obstacle. Tous les grands projets sont semés d'embûches, évidemment. Et Gustave Eiffel, qui redoutait les dysfonctionnements interne va voir les problèmes arriver de l'extérieur. En effet, c'est le grand quotidien de l'époque, Le Temps, qui publie une pétition, une protestation solennelle d'un certain nombre d'intellectuels contre cette construction hors de mesure. Alors on peut lire évidemment dans cette protestation, à la fin de la protestation en tout cas, les signatures de gens très importants. Maupassant, Guy de Maupassant est resté à la postérité en partie pour cette opposition très dure qu'il a menée contre la Tour Eiffel, mais aussi Charles Gounod, Charles Garnier, enfin vous voyez quand même de grosses pointures. Alors Édouard Lecroix va aider évidemment Eiffel dans cette histoire. Il l'encourage, il lui demande de ne pas se laisser dérouter. S'il en était la citation.
Nous sommes bien en direct.
Ne vous laissez pas, voilà. Ne vous laissez pas impressionner, écrit-il, par la forme qui est belle et voyez les faits. La protestation manque d'à-propos. Vous ferez remarquer aux signataires qui vous l'apporteront que la construction de la Tour Eiffel est décidée depuis un an et que le chantier est ouvert depuis un mois. On pouvait protester en temps utile, on ne l'a pas fait et l'indignation qui honore a le tort d'éclater juste trop tard. J'en suis profondément peiné. Ce n'est pas que je craigne pour Paris. Notre-Dame restera Notre-Dame et l'Arc de Triomphe restera l'Arc de Triomphe, mais j'aurais pu sauver la seule partie de la grande ville qui fut sérieusement menacée, cet incomparable carré de sable qu'on appelle le Champ de Mars, si digne d'inspirer les poètes et de séduire les paysagistes. Vous voyez que ça ne manque pas d'ironie, la lettre qu'adresse Édouard Lecroix à Gustave Eiffel pour l'encourager. Alors, comme si cette protestation intellectuelle et théorique ne suffisait pas, un conseiller de Paris qui réside dans le quartier du Champ de Mars va attaquer de son côté Gustave Eiffel en responsabilité pour le risque majeur qu'il est censé faire courir à la population riveraine. Cette fois, Eiffel est excédé et avec cette espèce de, j'allais dire de culot, d'assurance incroyable qu'il caractérise, il annonce qu'il prend personnellement la responsabilité d'indemniser les éventuelles victimes étrangères au chantier. Après tout, sa devise pourrait être « qui ne risque rien n'a rien ». Ça veut dire aussi qu'il est sûr de lui quand même, Eiffel, hein. Il sait que ça risque pas grand-chose. Le moment est venu pour lui de faire la preuve de son plus grand talent, et son plus grand talent, c'est peut-être pas avant tout un talent d'ingénieur, ni de meneur d'hommes, ni même d'homme d'affaires. Non, le plus grand talent d'Eiffel, et qui à ce degré confine au génie, c'est le talent d'organisateur. Avec cet homme, Tout est pensé à l'avance, tout est traduit en priorités relatives, tout est décomposé en travaux simples, de sorte que même les tâches les plus difficiles en apparence, il est capable de les réduire à une somme très organisée de petites tâches finalement assez faciles. Et c'est ça le secret de la construction de la Tour Eiffel. Dites-vous bien que tout, dans le plus léger détail, tout a été conçu d'avance et réalisé au sol, dans les ateliers de Levallois. 18 000 éléments de moins de 5 mètres ont été préassemblés et préparé pour le montage final au dixième, je dis bien, au dixième de millimètre. C'est le 1er janvier 1887 que l'on commence à assembler sur place les premières pièces métalliques. Le jeu de construction commence sans perdre de temps, naturellement, mais sans aucune précipitation non plus, puisque tout est parfaitement programmé. Je crois qu'on peut parler d'un jeu de mécano géant. Or, si l'on vous demande combien il a fallu de boulons pour assembler la Tour Eiffel, Julia, ne tombez pas dans le piège, il n'en a pas fallu un seul, parce que la tour n'a pas été boulonnée, elle a été rivetée. Vous imaginez la quantité de rivets nécessaires et le bruit que ça devait faire sur ce chantier. Le montage des quatre piliers jusqu'à la première plateforme, des échafaudages, même mineurs, même secondaires ont été nécessaires pour y arriver. Ce montage se réalise sans encombre. L'opération la plus difficile, c'est l'assemblage de ces éléments au niveau du premier étage, évidemment. Pour cet ajustement, Eiffel a eu l'idée de monter chaque pied sur vérin hydraulique et une fois les piliers assemblés, les vérins sont condamnés par des cales en acier. C'est une astuce de chantier qui est à l'origine, vous savez, de cette légende selon laquelle la Tour Eiffel serait montée sur vérin. Non, elle ne l'est plus aujourd'hui. Étant parvenu jusque-là, Gustave Eiffel sait maintenant qu'il va pouvoir mener son défi jusqu'au bout. Et c'est beaucoup plus détendu, en quelque sorte, qu'il parcourt maintenant ce chantier qui s'élève dans les airs. Vu du sol, le jeu de construction a quelque chose de fascinant. Pour toute une génération de Parisiens, l'année 1888 aura été marquée par les progrès stupéfiants de cette tour qui paraît s'élever à vue d'œil. Les passants s'arrêtent constamment, on les voit comme ça, qui lèvent les yeux. Ils hochent la tête. Certains ne peuvent pas s'empêcher de sourire ou même de rire, mais la plupart, évidemment, rêve.
Un extrait sur Europe 1 de la méditation de Thaïs, de Jules Massenet, Franck.
J'ai sous les yeux, Julia, un ouvrage qui a été publié aux éditions Ouest France qui s'appelle « Les grands bâtisseurs du 15e siècle à nos jours ». C'est un livre, c'est un ouvrage collectif anglais qui a été traduit. Très beau livre d'ailleurs. Et évidemment, on parle de tous les grands architectes. Mais comme par hasard, qu'est-ce qu'on a mis sur la couverture ?
La tour Eiffel
en cours de construction. Elle n'a que deux étages de construit sur la couverture. Et à travers l'arche du rez-de-chaussée, on voit d'ailleurs se profiler la silhouette aujourd'hui disparue de l'ancien palais du Trocadéro. C'est resté mythique, évidemment, et ça continue de nous faire rêver cette tour Eiffel qui se construit, qui progresse de 10 mètres par mois, de 30 mètres quand on arrive plus haut, au niveau de la flèche. Or, il faut se représenter les conditions de travail très particulières de ces charpentiers métalliques qui travaillent en porte-à-faux dans le ciel, certains jours au-dessus des nuages qui couvrent la capitale. La structure est si gigantesque qu'elle crée une sorte d'univers à part entière, un univers à la fois envoûtant et inquiétant et surtout très enthousiasmant. Naturellement, certains ouvriers se plaignent de leurs conditions de travail, des grèves éclatent. Eiffel leur répond que le travail est exactement identique que vous le fassiez à 200 mètres ou bien à 50 mètres. Mais le plus grand exploit de Gustave Eiffel dans cette entreprise, c'est que contrairement à la tradition meurtrière de ce genre de chantier, celui-ci se révèle un modèle de sécurité. Un seul ouvrier, je dis bien un seul, mourra. Et d'ailleurs pour avoir commis une imprudence contraire au règlement, c'est un Italien dont Eiffel s'empressera évidemment d'indemniser la veuve et de la renvoyer dans son pays. Cette fois, les charpentiers du ciel sont en train de parachever le grand œuvre. Ils sont parvenus à près de 300 mètres. Ils assemblent maintenant les derniers modules, notamment le bureau qu'Eiffel s'est réservé au sommet de la tour. La plateforme à 300 mètres, le grand drapeau tricolore dont la hampe fait 20 mètres à elle toute seule. Du haut de son chef-d'œuvre, achevé dans les temps Gustave Eiffel peut triompher. Il n'a peut-être pas conçu sa tour au départ, mais c'est bien lui qui l'a construite et qui l'a construite toujours avec ce soutien d'Édouard Lecroix dont on va parler. Fierté supplémentaire, elle va porter son nom. Les autorités avaient travaillé dès le début sur le nom qu'on pourrait donner à l'ouvrage, Tour de la Révolution, Tour de l'Industrie. Finalement, le maître d'œuvre a tranché, la tour s'appellera Eiffel. Jamais on n'avait vu un tel coup de publicité. Après 27 mois d'un travail magnifique, la tour Eiffel se dresse enfin sur le ciel de Paris. Quelle fierté pour tous les participants et quelle formidable nouveauté livrée à la curiosité du public. Vous savez, j'ai beau chercher, je ne vois pas tellement d'exemples d'une architecture aussi spectaculaire depuis 1889. Même la Grande Arche de la Défense, par exemple, ou la très grande bibliothèque font un petit peu pâle figure à côté de cette tour Eiffel qui est ouverte au public le 15 mai 1889. Elle devient évidemment et d'entrée de jeu le grand pôle d'attraction de l'exposition universelle. En plus, cet ouvrage est extrêmement aérien, c'est une véritable dentelle, c'est assez incroyable. La promesse scientifique est tenue, plusieurs laboratoires ont trouvé leur place au sommet de la tour. Vous savez que elle devait être démontée, cette tour Eiffel, hein. La concession devait expirer au 1er janvier 1910, et bien finalement, elle va être prolongée. La concession sera renouvelée une première fois pour 70 ans, notamment du fait des expériences stratégiques de TSF menées à son sommet, 4 ans plus tard, en 1914, on verra à quel point tout ça a été d'une grande utilité. Et puis finalement, la tour Eiffel, aujourd'hui, plus personne ne parle de la démonter. C'était du provisoire qui dure et qui demeure, évidemment. La gloire d'Eiffel est assurée. La gloire d'Eiffel, oui, mais pas celle de Lecroy. Il était temps, grand temps, de rendre enfin hommage au deuxième père de la tour Eiffel. Eh bien, si vous voulez bien, c'est ce que nous allons faire maintenant en compagnie de Pascal Lainé.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Nous vous retrouvons Franck sur Europe 1 avec votre invité Pascal Lainé, écrivain, auteur de nombreux ouvrages, dont Édouard Lecroix, l'oublié de la Tour Eiffel chez Nouveau Monde Édition.
Il y en a plusieurs de ces oubliés, ouvriers certes, mais de ces oubliés de la Tour Eiffel, puisque on parle toujours donc de Gustave Eiffel, mais on oublie bien sûr Nouguière et Koechlin qui l'ont d'abord dessiné, on oublie Sauvestre qui lui a donné son style, sa grâce actuelle, et l'on oublie donc celui qui en a été le maître d'œuvre et le responsable du côté de l'État, c'est-à-dire Édouard Lecroix. Bonjour Pascal Lainé.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être des nôtres et merci d'avoir rendu hommage à ce personnage, à cette figure un peu oubliée. Il y a eu dans la Troisième République un grand nombre de héros, si je puis dire, mais Édouard Lecroix, qui pourtant peut être compté, nous dites-vous, parmi les pères fondateurs de la République, Édouard Lecroix a été plutôt oublié. Songeons, écrivez-vous, que les Gambetta, Ferry, Clémenceau, Jaurès, quelques noms parmi les plus prestigieux, sont tous contemporains et que chacun à sa manière, certes, ils sont tous animés de l'idéal républicain. Ils sont pareillement nourris de la pensée des inventeurs de la Révolution industrielle, héritiers à cet égard du philosophe Saint-Simon et souvent inspirés par des révolutionnaires théoriciens du fait social, de Louis Blanc à Proudhon et Marx, pour ne mentionner que ces figures éminentes. S'ils ont été souvent adversaires, quoi qu'il en soit, ils ont participé à l'œuvre commune, chacun avec son talent et ses convictions. Et là, vous ajoutez, injustement, notre mémoire a négligé l'œuvre et la belle personnalité d'Édouard Lecroix. Mais il vous revenait de nous la rappeler, cette œuvre, et de nous la mettre en valeur, cette personnalité hors du commun.
Oui, parce qu'il souffre de l'ombre de ces personnages non moins éminents que lui, mais pas forcément plus, alors, qui sont restés, eux, dans notre mémoire.
Je disais tout à l'heure, dans la première partie du récit, que Lecroix était à l'époque ministre du Commerce et qu'il était surtout, et il a tout fait pour, il était le secrétaire général de l'exposition universelle. C'était l'homme qui était en charge de l'exposition.
Commissaire général de l'exposition universelle, oui. Et il a tenu à l'être. Il a tenu à l'être, c'était sa chose, et c'était pour lui à la fois symbolique et en même temps une étape de sa carrière. C'était un poste, c'était un belvédère en quelque sorte, d'où l'on pouvait j'anticipe sur la tour elle-même, qui était aussi un magnifique belvédère. On voit loin à partir de là.
Cette exposition de 1889 symbolise l'ancrage de l'institution républicaine. C'est le début de la République triomphante, en quelque sorte. Et symbolise aussi le progrès technique, l'industrialisation, l'expansion coloniale française. On est dans un moment assez faste, il faut bien le dire. Et Édouard Lecroix... à bon droit peut estimer que le combat est gagné à cette époque-là parce qu'il a été lui-même un républicain qui a traversé des périodes difficiles. On va le voir dans un instant.
Oui, les républicains de l'époque, ce sont les pères fondateurs de la République telle que nous la pratiquons aujourd'hui, de la démocratie telle que nous la concevons, beaucoup plus que les Saint-Just et Robespierre de la première révolution. Entre les deux, il y a la révolution industrielle, c'est-à-dire le changement radical. Nous connaissons aujourd'hui un nouveau changement, mais du même ordre d'ailleurs. Mais ce changement décisif vient d'avoir lieu. Il implique une autre société, d'autres types de relations entre les gens. Et la politique qui en découle est adaptée à cette nouvelle forme de société.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une entente, plus ou moins secrète, entre Gustave Eiffel et Édouard Lecroix ? Comment expliquer notamment que le cahier des charges soumis au moment de l'appel d'offres ait été quasiment la description même du projet que présentait Gustave Eiffel ?
Je ne sais pas si la chose ne vaudrait pas aujourd'hui à Lecroix et à Eiffel les foudres d'un petit juge comme on en voit en ce moment. Parce que... c'est un jeu proposé dans lequel les dés sont pipés.
Ah oui, effectivement,
et Eiffel n'avait pas de concurrence. Il y a eu une sorte...
Il y avait Bourdet, il y en avait un certain nombre, mais en fait, il n'avait pas de concurrent réel, puisqu'il était seul à répondre aux exigences fixées par l'État, par la voix d'Édouard Lecroix.
Bah, la tour de Bourdet était la plus dangereuse, parce qu'elle avait recueilli... en particulier l'appui de Freycinet, qui était le premier ministre de l'époque, c'est-à-dire le président du conseil. Et Eiffel et Lecroix ont eu peur à un moment donné qu'elle l'emporte. Or, cette tour de granit, cette espèce de phare énorme de 300 mètres de haut, mais construit comme n'importe quel phare au bord de la mer.
Et qui continue à jouer son rôle de phare. On le voit quand on habite à Paris, on voit ça tous les soirs. Hein, le grand faisceau qui tourne au-dessus de la
mer. Moi, ça a bercé mon enfance. Ouais, parce que je voyais de chez moi
le phare.
Ce gyrophare, ouais. Enfin ce phare qui tournait régulièrement. Et ça avait, je m'endormais, non pas en comptant les moutons, mais en regardant le phare. Et pour en finir avec Bourdel, sa tour de granit ne pouvait pas se construire techniquement, elle était beaucoup trop lourde. On ne sait pas assez que la tour Eiffel est très légère. Oui. Elle pèse son poids d'air, c'est-à-dire si on prend le volume occupé par la tour Eiffel, il y a autant de poids d'air que de poids de fer.
Il y a un amoureux de la tour Eiffel qui a calculé que si l'on mettait toute la masse métallique dont elle est construite, si on l'installait sur un carré qui avait exactement comme surface, l'emprise de la tour Eiffel. C'est-à-dire, vous prenez les quatre piliers, vous faites un grand carré et vous installez la masse de fer, ça ne fait une masse que de 6 cm d'épaisseur. C'est donc extraordinairement mince.
On pourrait mettre le pied dessous. Oui.
Ouais, c'est ça.
Sans se faire écraser.
C'est tout à fait incroyable. Hein. C'est vraiment une dentelle d'acier. Alors, nous allons revenir évidemment sur la personnalité, sur la vie incroyable de cet Édouard Lecroix.
Oui.
On peut dire que, et c'est assez frappant, il a été marqué d'emblée au sceau de la République. Vous nous parliez de la Première République, mais entre la Première République, celle de la Grande Révolution, et la Troisième, il y a eu cette éphémère Deuxième République de 1848, et c'est comme ça que commence votre récit. Il a été marqué enfant en 1848 par la mission que son père, le père Lecroix, lui a confiée.
À l'âge de 8 ans, en juin 48, alors 8 ans ou 10 ans, hein, vous savez que il y a une hésitation sur ce point. Moi, je pense que comme il dit lui-même être né en 1840, je pense qu'il avait 8 ans en 1848, il est chargé de ramener, pour qu'on le cache, chez lui, par son père, un révolutionnaire condamné à mort, tout simplement. À 8 ans, il guide un condamné à mort du lieu d'un rendez-vous et de l'insurrection de juin 48, la plus terrible, celle qui a été et qui s'est transformé en bain de sang grâce
à son père lui dit oui. Tu vas aller sur le trottoir parce que la maison, enfin l'endroit où ils habitent est très difficile d'accès, donc c'est difficile à trouver. Tu vas aller sur le trottoir, tu vas faire semblant de jouer, mmh. Tu vas chercher cet ouvrier, lui demander son nom. Et très discrètement, sans lui parler, tu le ramèneras jusqu'à la maison.
Ben, je cite in extenso le témoignage de Lecroix lui-même dans ses mémoires, qui cite ça comme le premier haut fait, si j'ose dire, de sa carrière, qui est une carrière absolument extraordinaire, puisque une douzaine d'années plus tard, en 1860, il sera sur la goélette d'Alexandre Dumas et rejoindra les troupes de Garibaldi, les Mille, dans leur conquête de la Sicile et du royaume de Naples.
Et puis encore un peu plus tard, on le retrouvera au Moyen-Orient, devenu carrément le secrétaire d'Ernest Renan. Donc une grande vie que nous revoyons avec vous dans un instant, Pascal Lainé.
Sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Extrait sur Europe 1 de la Tour Eiffel Polka de Winston Marsalis. Tour Eiffel ou Tour Locroix d'ailleurs, Franck, aujourd'hui.
Oui, on pourrait presque dire la Tour Eiffel Locroix, pourquoi pas. Des notes bien sympathiques de cette petite polka
très
de la Tour Eiffel. Pascal Lainé a donc consacré un ouvrage entier, une biographie, à celui qu'il appelle l'oublié de la Tour Eiffel, c'est Édouard Lecroix qui, en tant que commissaire général de l'exposition universelle de 1889, a rendu possible le grand chantier de Gustave Eiffel et lui a permis d'aller jusqu'au bout, notamment sur un plan financier. Ils étaient très proches l'un de l'autre, ils étaient tous les deux francs-maçons, bien sûr, comme étaient tous les dignitaires de la Troisième République. Est-ce qu'ils étaient dans la même loge, ça, c'est difficile à dire.
C'est ce que j'ignore. Ouais. J'avoue que je n'ai... C'est comme la date exacte de naissance de Lecroix, ça m'aurait entraîné sur toute une vie de recherche,
oui,
probablement.
Là, ça fait partie,
non,
après.
Pour quant à savoir à quelle loge il appartenait, c'est plus facile. Mais il fallait donc pénétrer un milieu que je ne connais pas.
Nous recevons toujours des messages très sympathiques. Frédéric nous dit « Je suis restauratrice de livres anciens et l'année dernière j'ai restauré pour l'école des arts et métiers cet ouvrage en deux volumes, texte et planche, la tour de 300 mètres, magnifique ouvrage », nous dit-elle. C'est vrai que
oui.
Un grand nombre de beaux livres ont été consacrés au travail de Gustave Eiffel en général et à la tour en particulier. J'ai d'ailleurs sous les yeux aux éditions de La Martinière un ouvrage qui s'appelle « Le style Eiffel ». C'est un très bel album sur justement non seulement les travaux d'Eiffel, les chantiers qu'il a menés, mais surtout le style, car aujourd'hui encore, les designers s'inspirent de cette tour Eiffel et de ce style de l'architecture métallique, toute une époque et toute une grâce. Alors revenons à la vie de cet Édouard Lecroix, dont vous nous disiez qu'il se retrouve... au secours de Garibaldi.
Qui n'en a pas besoin.
Qui n'en a pas besoin, qui s'en serait passé.
Ça, c'est Dumas. C'est Dumas. Alors, il faut savoir.
Expliquez ce que fait Alexandre Dumas dans cette affaire. Non,
ce qui est très intéressant, c'est surtout de savoir que Lecroix est issu d'une lignée républicaine qui commence avec son grand-père, qui porte le nom de Simon, qui était le général Simon, un général de Napoléon, qui n'a pas voulu être général d'Empire, qui a été arrêté à la suite d'un complot avorté. Et qui
on parlait de la conspiration du général Mallet l'autre jour, on voit à peu près de ce dont vous pouvez parler.
Non, c'était au
pas
début,
celle-ci, mais enfin bon,
non, c'était bien plus tôt,
oui.
C'était au moment
1804,
où,
oui.
où c'était en 1804, au moment de la fin du consulat.
Enfin, c'est le même esprit.
c'est l'esprit, je dirais, c'est plus pur. Hein, Peu importe. Donc, nous avons une tradition républicaine. Ça, c'est très important parce que toute la vie de Lecroix va être éclairée par cet idéal républicain, moderne, et va... C'est au moment de la Commune, par exemple, qui va connaître un
Alors,
véritable...
Attendez, avant de parler de la Commune, revenons sur Alexandre Dumas et sur cette expédition.
Ah d'accord,
voilà.
Oui.
Alors, que fait-il lui-même, Lecroix? Il est tout jeune à l'époque.
Il a 20 ans.
Il a 20 ans. Hein.
Il a 20 ans, il a fait les Beaux-Arts, il a quitté les Beaux-Arts, il a fait aussi un peu de photographie, pas avec n'importe qui, avec Gustave Legret, qui était avec Nadar, l'un des deux grands ou trois grands photographes de l'époque, l'époque où la photo n'était pas, c'est pas si facile qu'aujourd'hui. Et il accompagne, il est un peu le journaliste de l'expédition, de la mini-expédition d'Alexandre Dumas. Et alors que Dumas en tirera un gros livre, lui en tirera dans ses mémoires un chapitre intéressant.
Après 46 ans, se souvient-il, donc en 1906, oui. Ce n'est pas sans une émotion profonde que j'ai revu Palerme, parce qu'il y retourne, oui. Où j'avais été témoin de tant d'événements extraordinaires et où, tout jeune encore, le hasard m'avait jeté. L'armée des chemises rouges, les batailles pour l'indépendance italienne, Garibaldi, la ville prise d'assaut, les flottes d'Angleterre et de France dans la rade, la révolution accompagné par la musique de Verdi, toute cette épopée des mille qui semble aujourd'hui aussi fabuleuse qu'un roman de chevalerie, que de souvenirs me revenaient à l'esprit et m'oppressaient. Ça a été quand même un moment fondateur pour lui.
D'une part, je souligne en passant que c'est un magnifique écrivain.
Oui, la preuve.
Il a écrit de plusieurs ouvrages qui malheureusement ne sont pas réédités ou ne le sont bizarrement que dans les pays anglo-saxons, je ne sais pas pourquoi. En France, décidément, il est inconnu.
Oui, on ne veut pas le connaître.
Oui, on ne veut pas le connaître. Et c'est, je dois dire que sans aucun scrupule, au contraire, en me réjouissant de l'aubaine, je l'ai cité aussi souvent que l'occasion s'en présentait.
Bien sûr, oui, vous suivez ses mémoires parfois.
Dans mon livre, je suis ses mémoires. Je suis aussi ses autres ouvrages politiques ou historiques.
Alors, on le retrouve au Moyen-Orient, on le retrouve au Liban.
Avec Renan.
Avec Renan. Alors, disons qu'il est au Liban quand Renan arrive. Alors, il faut rappeler en deux mots le rôle extraordinaire qu'a eu Renan comme archéologue, comme auteur, évidemment, de sa vie de Jésus.
Oui.
Et il le rencontre là-bas.
À la suite probablement d'une querelle dont il ne dit rien et dont Dumas ne dit rien non plus, le voilà débarqué à Malte. Une fois à Malte, il est sans un sou pratiquement, il a un louis en poche, 20 francs, et il va au consulat de France, il y a un consulat, et il télégraphie, et là, il a la chance de trouver un engagement immédiat pour le Moyen-Orient, où Renan est en train d'arriver, et où en même temps, d'ailleurs parce que c'est un double volet, il y a un volet archéologique et un volet d'actualité terrible, c'est une première guerre du Liban et de la Syrie qui est aujourd'hui tristement dans les esprits. Il y a là des morts par milliers, un conflit inexpiable entre maronites et musulmans. Il y en aura d'autres par la suite, comme nous le savons.
Bien sûr, oui, ça n'a jamais cessé quasiment.
Il devient un véritable reporter de cette guerre, tout en étant très fidèlement et très sérieusement le secrétaire de Redan,
oui,
Redan, archéologue
mal,
et philosophe.
Après avoir été le compagnon d'Alexandre Dumas en Italie, le voilà secrétaire d'Ernest Renan en
quelques
personne.
Mois près, hein, en quelques mois, il change de rôle, de genre. Et...
Alors, de retour à Paris, il devient journaliste au Figaro. On le voit, alors il est à gauche, hein, c'est un radical.
Il est républicain.
Votre ouvrage est préfacé par les deux présidents des deux partis radicaux, hein, les radicaux valoisiens et les radicaux
tard,
de gauche.
Bien plus tard, il sera officiellement radical, autant où il y aura un parti radical. Ça date de 1901. Mm-hmm. Alors, on n'y est pas encore.
On n'y est pas encore, mais enfin...
Mais ce qu'on appelle républicains, c'est aussi... Ils s'appellent eux-mêmes républicains radicaux. Le radicalisme est pris au sens propre du terme, c'est-à-dire c'est un refus radical, absolu, du régime du Second Empire, de Napoléon III.
Alors...
Ce qui lui vaudra quelques séjours en prison.
Évidemment. Et alors après, au moment de l'invasion prussienne, en 1870-1871, il va faire partie de ceux qui vont essayer de concilier les deux camps pendant un certain temps. Il avait rencontré Adolphe Thiers. Voilà, oui, c'est ça.
Et ça lui a peut-être, ça je ne peux pas...
Quand je dis les deux camps, les deux camps français.
La preuve, mais ça lui a peut-être bien sauvé la vie. Thiers l'a fait emprisonner. Au moment le plus terrible de la semaine sanglante, pour qu'il n'ait pas à répondre des actes qu'il n'a pas pu commettre éventuellement. Je ne crois pas qu'il en avait l'intention. Hein. Je crois qu'il n'était pas un communard à proprement parler.
C'est-à-dire qu'il était, lui, dans Paris au moment de cette insurrection de la Commune. Il essaie de trouver un moyen, une conciliation entre les insurgés, entre les communards et le gouvernement légaliste de Thiers à Versailles. Et Thiers le fait emprisonner suffisamment tôt pour qu'il n'ait pas, en quelque sorte, à participer au combat de la reprise de Paris par les troupes de Versailles. J'essaie de résumer, hein, pour voilà.
Oui, il échappe à, c'est la première fois qu'il n'est pas sur les lieux de l'événement.
Exactement, oui.
Et il a été tiré en quelque sorte par les Basques assez violemment.
On peut dire qu'il y a quand même une zone d'ombre là. Son attitude est relativement ambiguë, non ?
Alors, je ne suis pas arrivé à savoir, et je crois qu'on n'a pas les moyens de savoir ce qu'il aurait fait. Je pense qu'il n'était pas partisan de la commune telle que les choses ont tourné. Je pense que...
Il avait un certain légalisme, en quelque sorte, tout républicain qu'il était.
Parce qu'il était républicain.
Parce qu'il était républicain.
Il avait une éthique républicaine. Oui, et il y avait les républicains radicaux, il y avait les républicains révolutionnaires. Il était républicain radical, c'est-à-dire, même s'il a connu les grandes utopies et rencontré les gens qui les défendaient, en particulier le père Enfantin, vous savez.
Voilà, bien sûr. Vous racontez ces rencontres,
oui,
d'ailleurs, très
intéressant. Oui, c'est extraordinaire, la richesse de ces rencontres.
Incroyable.
Il a rencontré, j'allais dire, tout le monde.
Il est vraiment l'homme qui a vu tout le monde.
Oui, il a vu tout
à fait étonnant. Et dans les années 1880, alors il est élu du 11e arrondissement, il va monter et il va devenir un personnage important. On a vu qu'il était ministre donc à partir de 1884, 85.
Il sera ministre du cabinet Freycinet.
Ministre du Commerce.
Ministre du Commerce. Alors c'est la Troisième République déjà dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que les ministères durent de quelques mois à un peu plus d'un an en général. Alors il sera 5 fois ministre et...
Il sera même 2 fois vice-président de la Chambre des députés aussi.
Également. Et il va s'occuper de la marine assez rapidement, après une courte erreur du ministère de l'instruction publique.
Ça lui convenait pas.
C'était pas ce qui lui convenait le plus, mais en revanche, c'était un homme qui s'était battu en duel, c'était un homme habitué à la guerre. Et c'est un homme qui savait qu'il fallait préparer la guerre contre l'Allemagne, car s'il y avait un côté revanchard chez les Français, il y avait du côté allemand l'idée d'une guerre préventive contre justement cette volonté de revanche des Français.
Eh bien, merci beaucoup, Pascal Lainé. Désormais, quand on regardera la Tour Eiffel, on la regardera, on peut dire, d'un autre œil et on aura une pensée pour Édouard Locroix, l'oublié de la Tour Eiffel. C'est édité aux éditions Nouveau Monde. Merci d'avoir entre-ouvert le rideau sur cette vie très méconnue et qui ne demandait qu'à être mieux connue.